VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 7 février 2023. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seloudia. Tout d'abord les titres. Traditionnel discours sur l'état de l'Union du président Joe Biden devant les deux chambres réunies du Congrès ce soir à Washington. Plus de 4300 morts, c'est le dernier bilan de la série de tremblements de terre en Turquie et en Syrie, parmi les plus violents depuis près d'un siècle dans la région. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, au Mali, pour des entretiens aujourd'hui avec la junte au pouvoir. En Côte d'Ivoire, un germe sur un fétiche utilisé lors d'une cérémonie traditionnelle est à l'origine de 16 morts mystérieuses. Au Sénégal, la justice va enquêter sur des détournements présumés de fonds anti-Covid. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Donc, commençons par le discours sur l'état de l'Union du président Biden. Ce discours qui est prononcé ce soir devant le Congrès.
Le président démocrate est enfermé depuis samedi à la résidence de Camp David. Il a diffusé hier sur Instagram des photos le montrant entouré de conseillers, de prompteurs et des brouillons de son discours sur l'état de l'Union. À Washington, les barricades ont été installées autour du Capitole pour ce rituel traditionnel pour balayer des sujets de politique intérieure. Selon un sondage de la chaîne ABC et le Washington Post, 62% des Américains estiment qu'il n'a pas fait grand-chose depuis janvier 2021. Cette année, l'invasion de l'Ukraine et surtout la Chine auront donc une bonne place. L'opposition républicaine l'accuse d'avoir manqué de fermeté dans l'affaire du ballon chinois abattu samedi après avoir survolé des pans entiers du sol américain. Joe Biden n'a pas officialisé sa candidature en 2024, mais va se présenter comme le candidat de la raison face à l'ancien président Donald Trump, dont la candidature n'inspire pas non plus beaucoup d'enthousiasme. Selon le même sondage d'ABC et Washington Post, 62% des Américains seraient déçus et mécontents si Joe Biden était réélu en 2024 et 56% le seraient pour Donald Trump.
Merci Yacouba Ouedraogo. Plus de 4300 personnes ont été tuées hier lundi en Turquie et en Syrie par un séisme de magnitude 7.8 et ses répliques. Par ailleurs, le froid et la nuit compliquent les opérations de secours sur fond de mobilisation internationale. Eric Malirakidza.
Le bilan ne cesse de s'alourdir. Un grand nombre de personnes restent piégées sous les bâtiments effondrés. Partout, les habitants se mobilisent et tentent de dégager les ruines à main nue, utilisant des seaux pour évacuer les débris. Le déploiement de secours a permis d'extraire 7840 personnes des décombres en Turquie, où près de 5000 bâtiments sont complètement effondrés. Hier soir, des habitants se préparaient à passer la nuit dehors, malgré des températures ressenties sous 0 degré, mais la pluie et la neige tombaient par endroits en abondance, et la baisse des températures rendent la situation encore plus précaire. Dans ces conditions, l'OMS a dit s'attendre à un bilan final beaucoup plus élevé. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé à l'Union nationale, précisant que la Turquie avait reçu les offres d'aide de 45 pays. Il a décrété un deuil national de 7 jours. Le président américain Joe Biden a promis à M. Erdogan toutes l'aide nécessaire, quelle qu'elle soit. Quant au gouvernement syrien, il a lancé un appel à l'aide à la communauté internationale.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Burkina Faso, des enquêteurs ou des enquêtes ont été ouvertes pour élucider la situation après la mort présumée de pèlerins nigérians musulmans dont le nombre est encore inconnu, a annoncé ce lundi Olivia Rwamba, la ministre burkinabé des Affaires étrangères suite à un échange avec l'ambassadrice du Nigeria. Pour le moment, aucune information concrète ni élément n'a été enregistré sur le terrain qui prouve la véracité des faits, a indiqué Madame Rouamba. Selon le président nigérian Muhammadu Buhari, les pèlerins auraient été tués lorsque leur bus, qui roulait en direction de Kaolack au Sénégal, a été la cible d'une attaque d'individus armés au Burkina Faso. Par ailleurs, c'est au moins 25 personnes, dont 22 civils et 3 policiers, qui ont été tués dans l'attaque de djihadistes présumés dans le nord du Burkina Faso samedi, selon un nouveau bilan annoncé lundi par le gouverneur de la région du Sahel. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est arrivé tôt ce mardi au Mali pour une visite qui concrétise le rapprochement entre Bamako et Moscou. Sa venue est présentée par les autorités maliennes comme la première du genre. Le point avec Michel Joseph.
Sergueï Lavrov sera reçu aujourd'hui par le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Des discussions avec son homologue Abdoulaye Diop sont également prévues. Sa visite matérialise la volonté ferme des présidents maliens et russes d'impulser une nouvelle dynamique à leur coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité et au niveau économique, a indiqué le ministère malien des Affaires étrangères. Des ministres maliens se sont rendus à plusieurs reprises à Moscou. Le Mali a réceptionné à différentes reprises des avions et hélicoptères de guerre livrés par la Russie. Des combattants russes sont arrivés sur le sol malien à la fin 2021. Ils sont présentés comme des instructeurs envoyés au nom d'une coopération d'État à État. La France et les États-Unis affirment qu'il s'agit de mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner. Moins de 48 heures avant l'arrivée de M. Lavrov, la junte a annoncé l'expulsion de Guillaume Ngefa, chef de la division des droits de l'homme de la mission de l'ONU. Les militaires maliens l'accusent de partialité suite à la dernière session du Conseil de sécurité sur le Mali. Aminata Cheikh Diko, de la société civile, y a prononcé un discours sur des violations présumées des droits de l'homme commises par l'armée malienne et ses alliés russes.
La justice sénégalaise a ordonné l'ouverture d'enquêtes sur des cas présumés de corruption et d'abus de fonction dans la gestion de fonds anti-Covid. Cela fait suite à la publication, il y a quelques semaines, d'un rapport de la Cour des comptes faisant état d'irrégularités. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le procureur de la République Amédi Diouf a indiqué dans un communiqué avoir demandé aux unités de la police judiciaire de la division des investigations criminelles d'ouvrir des enquêtes préliminaires. Le ministère de la Justice avait saisi le parquet de Dakar à la suite de la publication de ce rapport en mi-décembre sur les dépenses engagées en 2020 et 2021 sur le fonds de riposte contre les effets du Covid-19. Ce fonds était financé par l'État du Sénégal et des bailleurs à hauteur de 1 000 milliards de francs CFA. Plus de 750 milliards de francs CFA ont été officiellement dépensés selon le rapport. Le rapport d'audit de la Cour des comptes fait état de potentielles violations de la loi et l'existence présumée d'infractions pénales, notamment des atteintes au denier public et autres infractions assimilées, telles la corruption et l'abus de fonction, a détaillé le procureur. Le gouvernement s'est défendu en soulignant que les manquements recensés porte sur moins d'1% du montant total du fonds, après des critiques de l'opposition et de la société civile qui ont réclamé toute la lumière sur ces dépenses.
En Côte d'Ivoire, un germe présent sur un fétiche utilisé lors d'une cérémonie traditionnelle est à l'origine du mal mystérieux qui a fait depuis décembre au moins 16 morts, dont des enfants ainsi que 53 malades dans le centre du pays, a annoncé ce lundi le ministère de la Santé. Les résultats des prélèvements effectués dans le village de Kpo Kahankro, situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Boaké, ont été envoyés à l'Institut Pasteur d'Abidjan. Il en est ressorti un germe, a expliqué Joseph Beignet Bigvro, directeur de l'Institut National de l'Hygiène Publique, qui dépend du ministère de la Santé, lors d'une conférence de presse à Abidjan. Au Congo-Brazzaville, le général Norbert Dabira, 73 ans, ancien proche du président Denis Sassou Nguesso, est sorti de prison ce lundi après avoir purgé sa peine de 5 ans ferme selon sa famille. Il avait été condamné en 2018 pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Tour à tour, inspecteur général de l'armée et haut commissaire à la réinsertion des ex-combattants, le général Dabira était tombé en disgrâce en 2018. Les États-Unis ont affirmé ce jeudi avoir récupéré de premiers débris du ballon chinois, tandis que l'administration de Joe Biden s'est efforcée de contenir les retombées de cet épisode tant face à l'opposition républicaine que vis-à-vis de Pékin. 5 Palestiniens ont été tués ce lundi dans un nouveau raid de l'armée israélienne en Cisjordanie occupée, a indiqué un responsable sécuritaire israélien, après des opérations de recherche lancées la semaine dernière pour retrouver des suspects à la suite d'une fusillade près de Jéricho. La Minute Éco, Timothée Donangmaï.
Revers ce lundi pour Meta, maison mère de Facebook, qui tentait de faire annuler des poursuites engagées au Kenya contre elle. Un ancien modérateur de contenu qui travaillait pour un sous-traitant de Meta chargé d'examiner les messages publiés sur Facebook affirme que le personnel basé au Kenya travaille dans des conditions inhumaines, évoquant du travail forcé, des salaires aléatoires et l'absence de droit de représentation syndicale. Meta a tenté d'obtenir l'annulation de cette affaire, estimant que le tribunal local chargé des relations dans le marché du travail n'avait pas juridiction en la matière, car le groupe américain n'est pas implanté au Kenya. Le juge de la haute cour, Jacob Gakeri, a rejeté cette requête. La prochaine étape est prévue le 8 mars, notamment pour organiser une audience. Les grandes firmes américaines et les géants de Wall Street poursuivent leur série de licenciements dans leurs efforts en vue de surmonter les effets du ralentissement économique mondial. La hausse des taux d'intérêt et une faible demande ont contraint des compagnies comme Amazon et Walt Disney à réduire leur personnel. Ainsi, IBM fait état de 3 900 licenciements, Alphabet élimine 12 000 et Microsoft 10 000.
Merci Tim. À présent, le sport avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Cette nouvelle liée au tremblement de terre en Turquie et qui concerne Christian Atsu, pour commencer.
Oui, le vice-président du club turc de Christian Atsu, Hayat Sports, a déclaré que l'ailier ghanéen se trouve dans les décombres d'un important tremblement de terre qui a tué plus de 3000 personnes en Turquie et en Syrie voisine. L'ancien milieu de terrain de Newcastle et Chelsea, 31 ans, a rejoint le club de Super League en septembre dernier. Atsu a passé 5 saisons à Newcastle après une première campagne en prêt avant de partir en Arabie Saoudite en 2021. Prions pour des nouvelles positives, a indiqué le club anglais sur Twitter. Les autorités turques ont suspendu jusqu'à nouvel ordre les compétitions sportives dans le pays.
Mondial des clubs, Flamengo entre en lice aujourd'hui.
Les Brésiliens affrontent les Saoudiens d'Al Hilal dans la première demi-finale à Tanger. Au tour précédent, Al-Hilal du Malien Moussa Mariga s'est imposé au tir au but contre le Wydad de Casablanca. Les Brésiliens espèrent devenir le premier club non-européen à être sacré depuis 2012 et le titre des Corinthians. Mercredi, le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions, fera son entrée dans la compétition contre le club égyptien d'Al-Ahly qui a éliminé Auckland City 3-0 et les Seattle Sounders 1-0 pour atteindre les demi-finales. Le Real Madrid détient le record de sacres dans la compétition, 4 titres enlevés en 2014, 2016, 2017 et 2018. Les vainqueurs des deux rencontres disputeront la finale de ce mondial des clubs samedi à Rabat.
Anthony Joshua va affronter l'Américain Franklin à Londres en avril.
L'ancien champion du monde des poids lourds britanniques l'a annoncé hier lundi sur son compte Twitter. Anthony Joshua va défier l'Américain Jermaine Franklin à l'O2 Arena de Londres le 1er avril. Joshua, 24 victoires dont 22 par KO et 3 défaites, s'apprête à remonter sur le ring donc après 2 défaites consécutives face au gaucher ukrainien Oleksandr Usyk. La dernière en date remontant à août dernier en Arabie Saoudite. Âgé de 28 ans, Franklin, 21 victoires, dont 14 par KO et 1 défaite, sera le premier adversaire pour le retour d'EJ au plus haut niveau, toujours en quête d'une victoire depuis celle remportée sur Kubrat Pouvef en 2020. Joshua avait été vu dans le public en novembre dernier lorsque Franklin a perdu contre Dillian White à la Wembley Arena de Londres, la première et à ce jour seule défaite de l'Américain.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sibulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Gabon, la formation des jeunes en situation de décrochage scolaire est une réalité. Le gouvernement a renforcé depuis une dizaine d'années des centres spécialisés dans l'accompagnement et l'insertion socio-professionnelle des jeunes en difficulté sociale. Découvrons la section cordonnerie et maroquinerie du Centre de formation et d'enseignement professionnel de Libreville avec notre correspondant sur place, Ismaël Obiangze.
Claude fait tourner le cuir comme une toupie au creux de ses mains. Manège plutôt bruyant et qui permet aux chaussures de parcourir des milliers de kilomètres.
Cette chaussure n'a aucun souci, sauf que elle s'est introduite chez nous pour faire des bambous. Des bambous, c'est la matière caoutchouc qui protège les talons arrière. Voilà, les talons appelés dans son thème technique soubou. Et là, c'est les bambous.
Dans cet atelier du centre de formation de Libreville, Claude encadre des apprentis cordonniers comme Kelly. Arrivé ici il y a quelques mois, le jeune stagiaire s'affaire sur la première forme d'une babouche.
Je suis là pour coudre sur la machine cette matière qui est déjà prête. On va mettre sur la première pièce de montage pour réformer la babouche.
Un travail de précision, fait de tests et parfois de ratés, sous la conduite d'un totem responsable pédagogique du centre.
Nous avons des objectifs à atteindre, de telle sorte que l'apprenti qui sort d'ici puisse s'intégrer à l'entreprise. Par rapport au module qu'il reçoit dans cet établissement, nous avons non seulement le savoir qu'il devrait avoir comme acquis, mais aussi le savoir-être.
La section cordonnerie du centre de formation et d'enseignement professionnel de Libreville a vu le jour en 2001. Martin Logo est l'un de ses pionniers formés en Italie.
Je suis sorti styliste et modéliste dans l'industrie de la fabrication de chaussures. Quand je suis arrivé, je leur ai dit que la réparation, c'est bien. C'est dans ça, c'est parti de la cordonnerie. Mais on va d'abord démarrer de ça. Mais après, nous allons démarrer à fabriquer les petites séries de chaussures et puis ce qu'ils font en ce moment.
Déjà 8 promotions sorties de cette section. Pour Thierry Boussin, directeur du centre, il faut aller plus loin.
Il est de bon aloi que pour former ce genre de public, qu'on fasse appel à des partenaires qui sont déjà des artisans, qui sont installés, et ainsi de suite. À l'international, nous avons des grands partenaires. Je voudrais citer en premier le Royaume chérifien, qui accompagne la formation professionnelle au Gabon.
L'ambition des autorités gabonaises est de promouvoir le taux d'emploi des jeunes en réduisant leur taux de chômage, estimé à plus de 60% à l'échelle nationale. Libreville, Ismaël Obiangze pour VOA Afrique.
Avec vous, dans Washington Forum cette semaine, le discours annuel du président américain au Capitole sur l'état de l'Union. Au rendez-vous du chef de l'exécutif très attendu avec les parlementaires dans un congrès divisé. C'est une allocution durant laquelle Joe Biden s'adressera aux Américains sur les grandes questions de l'heure comme l'inflation, l'immigration, les tensions avec la Chine et la guerre en Ukraine, alors qu'il n'a toujours pas dit s'il va se représenter en 2024 ou pas. Qu'attendre du discours de Joe Biden au Capitole? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Des Rwandais de Washington et ceux venant d'autres coins des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni se sont réunis samedi dernier à Rockville dans l'État du Maryland pour une soirée d'action de grâce. un moment de prière, de communion et de projet devenu un rituel annuel depuis 21 ans. Eric Manirakidza a couvert l'événement pour nous. Voici son reportage.
Chants et danses ont agrémenté cette 21e édition de prière pour la paix au Rwanda et d'action de grâce. Antoinette Kanyabutembo, l'initiatrice de cet événement qu'elle organise chaque année depuis 2002.
C'est une journée spéciale parce que nous voulons pas que les choses qui sont passées dans les années 94, même avant les années 94, les tueries, nous prions pour que notre Rwanda reste en paix, nous prions pour les dirigeants du pays, nous prions pour le président, nous prions pour que vraiment nous puissions grandir et continuer dans la paix. Projection des choses, tout ce qui se passe maintenant, nous voyons que c'est la main de Dieu et nous sommes fiers de notre pays.
L'ambassadeur Charles Murigande est venu de Kigali pour s'associer à cette activité.
C'est une activité qui a été entreprise depuis 21 ans. Prier pour notre pays, le leadership de notre pays. Et comme croyant, quelqu'un qui croit à la puissance de la prière pense que c'est une activité qui est très importante.
Les non-Rwandais sont aussi les bienvenus pour partager ce moment de convivialité. Ousmane Insa est du Niger. Il construit les ponts dans les zones rurales au Rwanda.
J'ai eu l'honneur d'avoir été invité par la communauté rwandaise ici à Washington DC pour présenter un projet que nous avons effectué entre ma compagnie en partenariat, mon employeur disons, en partenariat avec une ONG qui s'appelle Bridges to Prosperity, qui construit des ponts à travers le monde. Bridges to Prosperity a construit plus de 400 ponts à travers le monde, dont environ 150 de ces ponts ont été construits au Rwanda.
L'ambassadeur du Rwanda à Washington, Mathilde Mukantabana, a rehaussé de sa présence cette soirée d'action de grâce. Plus de 300 personnes se sont déplacées pour cet événement dans une ambiance bon enfant et se sont encore donné rendez-vous l'année prochaine, le premier samedi de février.
États-Unis toujours, les opérations de récupération des débris d'un ballon espion chinois présumé, abattu samedi, passent à la vitesse supérieure. Véronica Balderas Iglesias de la VOA explique comment les restes de l'engin pourraient aider à répondre à des questions importantes sur son objectif et façonner une nouvelle phase des relations américano-chinoises. Le récit avec Lionel Gahima.
De loin, l'opération semble simple. Un avion américain s'est approché de ce que les autorités ont décrit comme un ballon chinois de surveillance et l'a abattu. Le champ de débris s'étend sur environ 11 kilomètres. Le tir de missile a fait l'objet d'une planification minutieuse. Le secrétaire au transport, Pete Buttigieg, s'est exprimé dans l'émission State of the Union sur CNN.
Je sais que lorsque le président a donné l'ordre de s'en occuper, les militaires ont évalué les risques et avantages des différentes approches. L'opération s'est déroulée sans aucun dommage ni blessure pour les vies ou les biens des Américains.
Dans une déclaration, la Chine a protesté contre la destruction du ballon, accusant les États-Unis d'avoir réagi de manière excessive, en assurant que l'aéronef ne faisait que recueillir des informations météorologiques. Mais des éléments au sein de l'armée chinoise pourraient avoir utilisé intentionnellement ce ballon pour perturber la visite prévue ce week-end à Pékin du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, a déclaré l'amiral de la marine américaine à la retraite, Mike Mullen, sur ABC.
Je pense que stratégiquement, cela nuit vraiment à la relation entre les États-Unis et la Chine. L'une des questions est de savoir si la main droite savait ce que la main gauche faisait en Chine.
Aujourd'hui, la pression monte sur l'administration Biden pour récupérer les débris et répondre aux nombreuses questions sur les capacités et le but de ce ballon. Dans l'émission Meet the Press sur NBC, le représentant républicain Mike Turner a fait écho aux critiques selon lesquelles l'administration Biden aurait dû abattre l'engin beaucoup plus tôt avant qu'il ne pénètre l'espace aérien américain.
La Chine est un adversaire autoproclamé. Elle développe clairement ses capacités militaires. Elle triple ses capacités en matière d'armes nucléaires. Elle met en service des armes hypersoniques. Elle se développe dans l'espace.
Le ballon est entré une première fois dans l'espace aérien américain le 28 janvier au-dessus de l'Alaska, puis une seconde fois au niveau de l'Idaho, trois jours après, le mardi 31 janvier. Le grand public n'a appris son existence que ce jeudi, lorsqu'il était au-dessus du Montana. Le Pentagone a expliqué avoir voulu attendre que le vaisseau survole la mer pour l'abattre afin d'éviter tout dégât au sol lors de la retombée des débris. Dans l'émission This Week sur ABC, le sénateur républicain Marco Rubio s'est dit préoccupé par la collecte des données, malgré les assurances données par le Pentagone qu'il avait mis en place des contre-mesures.
Il est passé au-dessus des champs de missiles balistiques intercontinentaux, de certains des sites militaires les plus sensibles que nous ayons, puis il a quitté le sud-est de la côte ouest des États-Unis pour se jeter dans l'océan. Il y a donc beaucoup de questions auxquelles il faut répondre.
Les responsables de la défense ne s'attendent pas à ce que l'opération de récupération des débris soit difficile, mais ils n'ont pas d'estimation du temps que cela prendra.
Pays africain comptant l'un des plus grands nombres d'artistes récompensés aux Grammy Awards, l'Afrique du Sud a érigé ce lundi en fierté nationale le prix remporté la veille à Los Angeles par un trio mené par le DJ-producteur Zaix Bantwini sur un titre en Zoulou. Autre moment fort de la soirée, la reine du R&B, Beyoncé, est devenue l'artiste la plus couronnée de tous les temps aux Grammys. Davantage avec Roger Muntou.
L'événement musical le plus prestigieux du monde s'est déroulé hier dimanche à Los Angeles. Beyoncé, vous l'avez dit, est devenue l'artiste la plus couronnée de tous les temps au Grammy Award, mais le prix suprême du meilleur album lui a encore échappé au profit de la pop star britannique Harry Styles. Avec quatre nouveaux Grammys, dont la meilleure chanson R&B, Cuff It, ou le meilleur album danse électronique Renaissance, Queen Bee est repartie les bras chargés et elle devra faire de la place sur son étagère pour y disposer les 32 récompenses de toute sa carrière. Un record absolu, une de plus que le chef d'orchestre Greg Salty dans les années 1990. J'essaye de ne pas être trop ému, a-t-elle lancé, remerciant tour à tour ses parents, son magnifique mari, Jay-Z, ses trois beaux enfants et la communauté queer qui l'a toujours soutenue. Beyoncé entre donc dans l'histoire, mais une fois de plus, une récompense majeure lui a échappé, comme en 2017 avec Lemonade, devenu un classique Renaissance. Son dernier opus, House et Dance, a échoué à obtenir le prix du meilleur album. Cette année, l'Afrique du Sud a aussi célébré une grande victoire aux Grammys. Leurs noms resteront à jamais dans les mémoires. Zaix Bantwini, Nomsi Bo, Zico D et Wouter Kalman ont remporté le prix de la meilleure performance dans la catégorie musique mondiale lors de la 65e édition des Grammys. Zaix Bantwini a dit espérer que cela prouvera à tous les jeunes Sud-Africains que tout est possible. Ce prix n'est pas seulement pour nous, c'est pour tout le monde à la maison. Ce moment témoigne du fait que nos rêves sont valables et que nous pouvons accomplir tout ce que nous avons en tête. Je veux que chaque jeune enfant du ghetto d'Afrique du Sud rêve grand et pense que nous méritons d'être reconnus sur les grandes scènes du monde. Le musicien, producteur et homme d'affaires a également remercié son équipe DMJ Africa et tous ceux qui les ont soutenus tout au long de leur parcours. Le manager, partenaire commercial et ami de longue date des ex-Bantwini, Sibong Lungu, a déclaré que la victoire était incroyablement spéciale pour eux. Le président Cyril Ramaphosa a remercié le trio pour sa brillante contribution à placer l'Afrique du Sud sur la scène mondiale.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde d'aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedulia, à la mise en ondes de Michel Joseph, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.